Bonjour à tous et bienvenue au premier épisode de notre podcast Cameo. Dans cet épisode, nous recevons Émilie Compini qui va nous raconter comment elle a réussi à créer sa société autour de l'art et de la rencontre, l'écriture d'un roman sur un sujet peu commun, tout en poursuivant sa passion pour l'humanitaire. Vous entendrez aussi comment elle a découvert sa multipotentialité et comment elle a appris à l'accepter pour pouvoir mettre en place tous ses projets. Bonne écoute!
Bah déjà, merci d'avoir bien accepté de nous faire cette interview.
Avec plaisir.
Que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, te présenter un petit peu en quelques mots?
Oui, tout à fait. Donc, je m'appelle Émilie. J'habite actuellement en France, à côté de la Suisse, en Haute-Savoie. Alors, mon parcours a été relativement classique, en fait, jusqu'à il y a 2 ans à peu près. À la base, je suis du domaine de l'humanitaire, donc je travaillais et je retravaille pour tout ce qui est ONG, fondation et autres, pour tout ce qui est projet de développement à l'international. Et mon parcours a changé un peu du tout au tout. Il y a 2 ans, en fait, j'habitais au Canada et suite à mon expérience là-bas, j'ai décidé en rentrant en France de lancer une entreprise dans l'événementiel artistique d'art ludique qui s'appelle Art Perro. Et là, ça a été un gros bouleversement parce que je suis complètement sortie de ma zone de confort. Je me suis lancée dans quelque chose de tout à fait nouveau, dans l'entrepreneuriat. Et c'est suite notamment à cette expérience-là que beaucoup d'autres choses en fait se sont mises en place et que j'ai notamment réalisé que en fait j'étais multipotentielle et que j'avais et l'envie et aussi surtout le besoin de faire plusieurs choses pour pouvoir être vraiment épanouie.
D'accord. C'était quelque chose qui était apparu avant ou c'est vraiment cette expérience de monter ce projet qui t'a permis de t'en rendre compte?
C'est vraiment cette expérience-là qui m'a permis de m'en rendre compte en fait. Parce que cette expérience m'a obligée aussi quelque part à faire un gros travail sur moi-même, donc tout ce qui va être lié au développement personnel. Et puis on se retrouve à être un peu face à soi-même et à devoir se poser les bonnes questions. Et c'est vraiment cette expérience-là qui m'a fait réaliser que oui, je m'étais rendu compte dans mes expériences professionnelles précédentes que je prenais très vite les choses en main. Donc même sur un nouveau poste, peut-être en 2-3 mois, j'étais parfaitement à l'aise dans le poste. Et puis au bout de 6 mois, j'avais déjà l'impression d'avoir fait le tour. Donc je m'étais rendu compte que voilà, j'avais besoin qu'il y ait beaucoup de challenges, que ça bouge, etc. Après, je n'avais vraiment pas encore réalisé, entre guillemets, ce que j'étais jusqu'à il y a 2 ans.
D'accord, donc tu as pu mettre un nom sur ton profil il y a 2 ans, ou tu connaissais le terme avant?
Je ne connaissais pas du tout le terme. Le nom sur le profil, ça a été l'année dernière et c'est, je pense, comme beaucoup de gens, quand je suis tombée sur la présentation TEDx de Emily Wapnick, donc qui a écrit justement, qui a été la première à écrire sur les multipotentiels et notamment, elle explique en fait ce terme-là et ce que ça recouvre. Et en fait, quand j'ai entendu sa présentation, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Voilà, ça a été un peu la révélation. Je pense que ça a été le cas de pas mal de multipotentiels.
Oui, c'est sûr que c'est vrai que cette vidéo, on en parle beaucoup et c'est une vidéo qui reparle. Beaucoup de multipotentiels en parlent en référence de TEDx qui a déclenché beaucoup de choses pour beaucoup, en fait. Elle explique bien le principe du multipotentiel et de tout ce qu'on, nous, on peut se retrouver, enfin, toutes les situations dans lesquelles on peut se retrouver. Donc, c'est sûr que quand on s'y reconnaît, on apprécie fortement cette vidéo.
D'ailleurs, dans cette vidéo, elle parle de comment répondre à la question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Toi, tu réponds comment ?
Alors, ça devient de plus en plus compliqué. Parce que au début, donc finalement, je disais, je suis entrepreneur, parce que j'ai créé ma société. En fait, pour reprendre un petit peu, du coup, maintenant, mon début de parcours multipotentiel, donc au bout de à peu près 1 an, après avoir créé ma société, bon, forcément, les sociétés, ça met toujours énormément de temps, ça met encore beaucoup de temps, mais le temps que ça se lance, etc. Et je commençais un peu à tourner en rond, même niveau moral, etc., ça devenait compliqué. Donc j'ai été accompagnée notamment par une coach. Et c'est là où je me suis dit, peut-être qu'il faudrait, parce que ce que je faisais avant me manquait aussi, parce que c'était quand même quelque part une passion. Je veux dire, on ne fait pas de l'humanitaire parce que... parce qu'on est obligé, on le fait vraiment parce que c'est une passion et une envie. Donc c'était aussi quelque chose qui me manquait, mais faire les deux en même temps, avoir une entreprise et travailler dans l'humanitaire, ça me paraissait compliqué. Finalement, grâce à ce travail-là que j'ai fait avec cette coach, je me suis dit bah, pourquoi pas, et bizarrement, une fois que tout était clair dans ma tête, bah, tout s'est mis en place et tout s'est passé absolument, tout s'est fait tout seul. On me dit toujours oui, l'univers met les choses en place. J'y croyais moyennement, malgré avoir lu des livres et autres sur le sujet, mais c'est vrai qu'en fait, une fois que c'était absolument clair dans ma tête, je veux dire, honnêtement, en à peu près 2 semaines, tout s'est mis en place. J'ai trouvé un travail qui me convient, mais parfaitement, dans lequel je m'éclate dans le domaine de l'humanitaire. Donc, je travaille pour une ONG qui, d'ailleurs, développe des méthodes de coaching mises en œuvre, enfin, pour des projets de développement international, mais qui est notamment spécialisé sur les droits de l'enfant, et qui me permet en fait de continuer à gérer mon entreprise parce que je travaille à distance, je travaille à mi-temps, enfin voilà, ça a été le truc parfait. En parallèle, j'ai pu publier aussi mon premier roman, donc je suis écrivain également, j'écris quelques articles pour des magazines en ligne, et puis là je m'occupe de la promotion de ce livre-là, et il y a plein d'autres choses qui arrivent cette année, peut-être l'année prochaine, notamment dans le sport et éventuellement aussi le coaching et autres, donc tout ça pour dire que voilà, ça commence à faire pas mal de choses. J'ai plusieurs cartes de visite, donc j'avais fait un post une fois, j'ai un peu l'impression de pouvoir jouer au Monopoly avec mes business cards, c'est assez marrant. Mais comment je me présente, je vais finalement réussir à répondre à la question initiale. je recommence souvent par « eh ben, je fais beaucoup de choses
». Oui, je connais bien cette présentation parce que voilà. C'est souvent la mienne.
Voilà, c'est simple, c'est clair. Donc là, déjà, les gens ont un regard un peu étrange. Et après, je dis bah, j'ai une société, je travaille pour une ONG et j'écris aussi. Et voilà. Donc après, je fais un très très bref descriptif de mes, disons, au moins les 3 activités principales, en laissant les autres de côté pour éviter de perdre tout le monde dès le début de la conversation. Mais voilà, c'est je fais plusieurs choses. C'est ça, sûr. Marche pas mal.
C'est marrant parce que tu dis que tu avais un parcours classique jusqu'à il y a 2 ans, mais en voyant un petit peu ton CV, tout ça, tu as quand même beaucoup, beaucoup voyagé et fait beaucoup de choses avant, ce qui n'est pas très, très classique, enfin, en tout cas, dans la grande majorité des gens. Qu'est-ce que tu en penses ?
Alors, c'est vrai que je m'en rends pas compte. On m'a souvent fait la remarque. J'ai une amie il y a pas longtemps qui m'a dit, mais c'est incroyable tout ce que t'as fait à l'âge que t'as. En fait, moi, je l'ai pas du tout vécu comme ça. Enfin, c'est souvent le cas des gens. Donc, c'est vrai que je m'en rends pas compte. Effectivement, j'ai beaucoup voyagé. Après, pour moi, c'était aussi vraiment lié à mon métier. C'est vrai que ça me paraît pas si exceptionnel que ça. Mais oui, effectivement, peut-être par rapport à des parcours entre guillemets plus classiques, j'ai vécu dans beaucoup de pays. Donc j'ai vécu en Angleterre quand j'étais plus jeune, et puis après j'ai vécu au Burundi, j'ai vécu 2 ans au Kenya, j'ai vécu au Canada aussi. Je pense qu'effectivement après les voyages aident beaucoup à avoir un esprit plus ouvert et puis à voir les choses aussi différemment.
Ça c'est sûr. Voyager, de toute façon, ça permet de voir aussi des pays nouveaux, et puis ça permet surtout de voir de nouvelles cultures et de nouvelles façons de réfléchir, de penser et d'aborder la vie. Donc c'est très très intéressant. Au niveau de tout ce qui était l'humanitaire, dans tes postes, c'était des choses qui étaient monotâches, c'était des choses qui étaient où ta multipotentialité pouvait justement se révéler un petit peu ou pas du tout ?
Pas vraiment. Pas vraiment, j'hésite entre pas vraiment et pas du tout en fait.
Ah oui, d'accord.
En fait, c'était alors en dehors d'un poste, un poste précédent où bon là, c'était le poste était relativement en dessous de mes capacités, enfin et notamment de mes compétences professionnelles. Donc là, je faisais le maximum pour prendre tous les projets qui passaient, en créer des nouveaux et voilà, essayer de faire ce que je pouvais. Mais bon, j'avais un peu l'impression de tourner en rond. Sinon, sur mes autres postes, c'était quand même vraiment. Après, il y a toujours l'avantage de l'humanitaire, c'est qu'il y a quand même toujours plusieurs choses à prendre en compte. Enfin, un projet, c'est des projets de développement, c'est des projets différents. Quand j'étais au Kenya, en fait, je prenais les décisions pour savoir quel projet est-ce qu'on allait financer. Donc là, ce qui était intéressant, en fait, c'était de pouvoir voir vraiment plein de thématiques différentes. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir autant des projets dans l'éducation que des projets qui étaient beaucoup plus techniques sur l'accès à l'eau, des projets d'aide alimentaire d'urgence. Donc c'était, au niveau des tâches en elles-mêmes, ça restait assez classique, j'ai envie de dire. Après, sur le contenu, c'était quand même beaucoup plus varié que peut-être un autre type de poste. Donc, je pense que c'est ça aussi qui faisait que ça restait intéressant en soi.
Oui, voilà, c'est la question que je voulais te poser parce que souvent on se rend compte que quand on a des monotâches ou des tâches répétitives, c'est vraiment quelque chose qui est typique du multipotentiel. Il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à continuer, il a besoin de nouveautés, il a besoin de créativité et que surtout de pouvoir s'intéresser à plusieurs sujets et apprendre. C'était un peu justement la question à laquelle je voulais arriver parce que c'est comment est-ce que, si tu avais eu des tâches répétitives, comment est-ce que t'avais tenu autant d'années dans des choses assez classiques. Après, c'est sûr que bon, en étant dans des pays à faire de l'humanitaire, on est dans quelque chose aussi qui nous prend différemment, étant donné qu'en plus tu te définis, si je ne me trompe pas, philanthrope. Donc, ça doit bien aider.
Ouais, tout à fait. Après, c'est vrai qu'avec du recul, en regardant maintenant avec plus le regard multipotentiel mes expériences passées, je pense que j'ai aussi beaucoup. J'étais très proactive, c'est-à-dire que dès que j'arrivais quelque part, j'essayais de mettre des nouvelles choses en place, des nouveaux outils, d'améliorer ci, d'améliorer ça. Donc j'ai toujours eu ce côté qui, du coup, je pense, était lié à ma multipotentialité encore ignorée, si je peux dire. Mais c'était vraiment, voilà, je me contentais pas de faire les tâches pour lesquelles j'avais été embauchée. J'essayais toujours d'aller plus loin, de voir plus. Et je pense que c'était aussi comme ça que j'essayais de nourrir un petit peu plus mon expérience professionnelle.
Et quel est ton parcours scolaire?
J'ai fait des études dans. Alors, j'ai fait une licence de langue étrangère appliquée. Donc, c'était déjà tourné vers tout ce qui était international. Et puis, des masters relations internationales et le master 2 qui était vraiment spécialisé sur les métiers de l'humanitaire. Donc j'avais vraiment fait ces études pour faire ce métier-là.
D'accord.
Alors, t'as vraiment fait ces études pour faire ce métier-là? C'est une idée qui tenait depuis longtemps, du coup, de faire ce métier en
Oui, tout
particulier.
à fait. Je m'étais penchée dessus à la fin du lycée, un peu comme tout le monde, en disant, bon, faut que je trouve quelque chose, qu'est-ce que je dois faire? Il n'y avait absolument rien qui m'intéressait, jusqu'à ce que je découvre, je me rappelle encore, c'était un petit livre où il donne un peu toutes les différents types de parcours professionnels que les jeunes peuvent, enfin, voilà, qu'on peut faire. Donc j'avais feuilleté un petit peu tout ça, je me rappelle, je passais les pages en me disant, non, 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 enfin, c'était écrit au bout du bout, on se dit, oh là là, là, qu'est-ce que ça va donner?
J'arrive à la fin.
C'est un peu bizarre. Donc, jusqu'à ce que je tombe justement sur les pages qui traitaient bah, des métiers de l'humanitaire, qui parlaient voilà, des ONG, des Nations Unies et tout ça. Et là, ça a fait un peu tilt. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Et en fait, une fois que j'ai eu cette idée, donc c'était à la fin du lycée, c'est vrai que j'avais vraiment tout mis en œuvre, même les études. Hein, à l'époque, il n'y avait pas de licence. Maintenant, il commence à y en avoir, mais à l'époque, il n'y avait pas de licence sur l'humanitaire. Donc, c'était, voilà, je vais faire telle licence pour pouvoir après m'orienter vers ci et ça. Donc, tout avait vraiment été fait pour que je puisse aller vers là.
Et qu'est-ce qui a fait qu'après tu sois parti au Canada, puis rentré après en Europe?
Alors, le Canada, c'est mon conjoint en fait. Alors, moi, mon contrat au Kenya était terminé en fait, enfin, allait se terminer à cette époque-là. Donc, j'étais en train de commencer à regarder voilà, où est-ce que j'allais travailler. Et mon conjoint a eu une opportunité en fait, lui à son tour, pour aller au Canada. Donc, bah, comme je suis de toute façon pas contre le voyage, j'ai suivi et on est revenu en France pour la même raison, c'est-à-dire que mon conjoint a eu lui une autre opportunité professionnelle. Professionnel dans la région là et puis comme la région dans laquelle j'habite nous plaisait beaucoup on a décidé de rentrer
Et du coup, de monter Harpero, ton
et du coup
projet.
de monter Harpero, tout à fait. Harpero, c'est un concept que j'ai découvert en fait au Canada justement. Alors au final mon expérience au Canada professionnelle en elle-même n'était pas si intéressante que ça. Par contre, ça a été une expérience d'un an où j'ai découvert plein de choses, notamment bah, pour Harpero et puis aussi dans le domaine du sport. Mais c'est un concept que j'ai découvert là-bas en fait de peinture ludique, c'est-à-dire que le but de la société, enfin des événements, des soirées qu'on propose, c'est de faire peindre des gens qui ne font absolument pas de peinture. Donc les gens vont dans un bar en fin de journée pour aller boire un verre comme un after work classique, sauf qu'il y a un artiste qui est sur place et l'artiste va leur montrer comment reproduire une de leurs toiles, mais vraiment étape par étape. Donc en fait, c'est une soirée bah, très très conviviale, très détente aussi parce qu'il y a ce côté bah, concentré concentration sur une tâche manuelle, qui fait que on boit un verre et on peint un tableau en même temps, sachant que le but c'est un peu d'avoir l'effet waouh à la fin, c'est-à-dire que beaucoup de gens arrivent plus pour le fun, c'est-à-dire en se disant on va aller tester, ça va être rigolo, mais de toute façon ce que je vais faire c'est une croûte parce que moi je suis absolument nulle en peinture. Et finalement, on les retrouve à la fin de la soirée avec un sourire jusqu'aux oreilles et surtout de la fierté dans leurs yeux parce qu'en fait, ils réalisent que si finalement eux aussi, ils ont réussi à faire le même tableau que l'artiste. Donc voilà, c'est un concept comme ça, un petit peu sympa pour en fait proposer aux gens de sortir différemment, tout simplement. Donc on développe ça peut-être aussi sur d'autres types d'art et on propose des événements aussi pour tout ce qui est team building, entreprise et autres.
D'accord. J'ai vu, oui, c'est vrai, je suis allé voir sur le site, le résultat est souvent bluffant, hein. Il y a la qualité des toiles à la fin réalisées par des amateurs, elle est assez impressionnante. Hein.
Tout à fait. Et c'est vraiment, on a honnêtement plus de 95% des participants n'ont vraiment jamais fait de peinture, autre que le primaire, le collège, c'est-à-dire tous les cours où on n'avait pas l'impression d'apprendre grand-chose, soit en passant. Mais donc, c'est vraiment que des novices. C'est-à-dire que les participants qui viennent sont vraiment des gens qui ne font pas du tout de peinture à la base.
C'est une bonne idée parce qu'effectivement, ça montre aussi aux gens qui sont capables d'apprendre encore. Ça démystifie aussi le côté « je le ferai pas parce que c'est trop compliqué et puis c'est pas moi et puis je suis pas un artiste ». Enfin, moi, je travaille dans l'art aussi. C'est vrai que c'est quelque chose contre lequel je me suis toujours battue. Ce côté « essaye ». Essaye, c'est qu'en essayant qu'on arrive. Et mine de rien, ça revient aussi le côté du multipotentiel qui a cette capacité d'apprendre rapidement. Et est-ce qu'il n'y avait pas une petite volonté aussi de pouvoir partager cet apprentissage, ces capacités d'apprentissage ?
Si, tout à fait, parce que moi, ça a complètement été mon expérience. Et d'ailleurs, ce que tu dis, ça fait complètement écho à un article que j'ai finalisé ce matin, que j'ai envoyé pour une revue, dans lequel, en fait, je dis, les gens se disent « je suis comme ci, je suis comme ça ». C'est-à-dire qu'on a eu, par exemple, une fois, à 13 ans, on a eu une mauvaise note en maths. « Ah, mais de toute façon, moi, je ne suis pas un scientifique ». On a eu des cours de dessin dans lesquels on n'a pas accroché plus que ça, et puis on se rend compte que pour dessiner ci, par rapport à son voisin qui lui avait un don particulier et qui réussissait super bien, du coup on est super nul. Donc on a tendance à, sur une seule expérience, sur un petit fait, à de suite projeter une image de soi-même en disant je suis comme ci, je suis comme ça. Et effectivement, l'art, c'est justement ça, moi, qui m'a poussée à créer cette entreprise, parce que bizarrement, j'avais toujours dit moi, créer une entreprise, jamais de la vie, je pourrais faire ça. Déjà, j'avais jamais travaillé dans une entreprise, puisque je viens de l'humanitaire, et puis c'était pas un monde qui m'attirait plus que ça, et puis j'étais convaincue que de toute façon, j'y arriverais pas, parce que j'avais pas du tout les capacités pour créer une entreprise. Bon, maintenant, je l'ai fait, ça fait deux ans qu'elle est là, donc voilà. Et mon expérience relative à l'art a été exactement la même, c'est-à-dire que je me considérais vraiment comme quelqu'un qui n'était pas du tout créative, grosse erreur d'ailleurs, pas du tout créative et surtout très nulle en tout ce qui est artistique, utiliser mes mains pour faire quelque chose, c'était non, mais pas du tout. Et la manière dont tout ça s'est débloqué, ça a été assez bête, c'est-à-dire que ça a été juste de l'intuition, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai eu une petite voix justement un petit peu avant le Canada, et c'est là où je m'y suis intéressée, c'est quand j'étais au Canada, j'avais un peu une petite voix qui me disait « Bon, faudrait peut-être que j'essaye faire quelques cours de peinture ou comme ça, juste pour voir. Juste pour voir. Après, si vraiment j'accroche pas et puis que je suis nulle, j'arrête. C'est pas grave. Et puis je verrai bien. » Et en fait, en arrivant au Canada, dans un nouveau pays, etc., je me suis dit « Bon, laissez l'occasion. Je vais regarder si je trouve pas quelque chose. » Et je suis tombée sur les cours d'une peintre en fait qui faisait beaucoup ça sur le ressenti en fait, sur le lâcher prise, sur c'était pas du tout technique de dire comment peindre ci, comment peindre ça, c'était beaucoup sur l'expression et sur le lâcher prise, le ressenti. Et j'ai adoré mes cours avec elle. Et surtout j'ai commencé à réaliser qu'en fait oui, moi aussi je pouvais être créative et moi aussi j'étais capable de peindre des choses. Et parallèlement à cette expérience, en fait, j'ai découvert ce concept en fait de un peu d'apéro peinture qui existe déjà depuis de nombreuses années aux États-Unis et au Canada. Et c'est là où c'est un peu fait tilt, en fait. C'est un peu là où toutes les pièces du puzzle se sont mises en place et où je me suis dit, mais en fait, il faut que ça n'existe pas en France, il faut que j'amène ça en France parce que c'est super, il faut montrer aux gens que même si on pense qu'on n'est pas capable de faire quelque chose, on peut pas le savoir tant qu'on n'a pas essayé, et j'ai même envie de dire on est tous capables de tout faire si on se donne les moyens d'y arriver.
C'est intéressant ce que tu dis, ça me fait penser aux quatre accords Toltec, où il parle de la parole en fait, qui reste en toi. Quand on te dit, quand t'es enfant, que tu t'as mal dessiné ou tu dépasses, tu sais, quand tu colories quelque chose, après ça te reste des fois toute ta vie, et tu oses plus, t'oses pas justement entreprendre ce genre de choses dans l'artistique, dans l'art.
Donc, tout à fait, souvent en coaching ou en psychologie, on appelle ça des croyances limitantes, qui sont mises quand on est enfant et que du coup derrière on arrive à l'âge adulte convaincu qu'on n'arrivera pas à faire, et puis quand on nous donne l'opportunité de se rendre compte que non, parce qu'on est bloqué sur le technique, là c'est vrai que la chose qui est très intéressante dans ton projet, c'est que ça passe par le technique, parce que c'est quelqu'un qui montre, et du coup démystifie, et ça, pas démystifie, mais ça vient désapprendre cette croyance qui est là, en disant mais en fait avec les bonnes techniques et passer par quelque chose de différent qui est aussi le cœur, j'arrive à obtenir un résultat.
Ouais, tout à fait. Et puis ça permet aussi de, outre justement briser cette coquille ou cette carapace de croyances limitantes, ça fait du bien aussi même en tant que tel, parce que ça permet, en fait les gens sont aussi souriants à la fin de la soirée, parce qu'ils se rendent compte que comme ils étaient concentrés sur une tâche manuelle, ils ont complètement fait le vide de la journée, c'est-à-dire que ça a presque un effet méditatif qui est qu'on se vide complètement la tête, et que forcément ça fait du bien.
Là, je veux bien le croire, ça fait partie justement de tout ce qui est l'art, hein. Ça ramène dans un petit état méditatif, donc c'est vraiment très très bien.
Tout à fait.
Et tu, lors justement de ces soirées, tout ça, ou même dans tes différents métiers que tu as fait, tu as créé beaucoup de profils multipotentiels ?
J'en croise de plus en plus, je pense. Alors, c'est possible aussi que quand je l'ignorais moi-même, je n'y faisais pas non plus attention. C'est souvent le cas. Par exemple, quand on se dit « Ah, tiens, je voudrais absolument une voiture rouge », on commence à voir des voitures rouges partout. Donc, je pense qu'il y avait peut-être aussi un petit peu de ça. Après, je pense que les gens commencent à plus oser aussi. J'en croise beaucoup. C'est-à-dire que les gens avec les fondateurs de l'ONG, par exemple, pour laquelle je travaille, sont aussi des multipotentiels. Ce sont deux personnes qui font énormément de choses à côté de leur travail pour cette ONG-là. Donc, ils ont complètement compris. Enfin, forcément, on a tout à fait accroché. Et puis, ils avaient complètement compris mon profil et puis ma nécessité de vouloir faire plusieurs choses. Il y a quelques personnes qui gravitent autour, qui sont effectivement multipotentielles. Après, c'est pas encore une grosse majorité, ça c'est sûr.
Et moi, je voudrais vous revenir deux secondes là sur justement Arpero. Tu parlais justement du fait, on parlait des croyances limitantes, du fait que les gens ça leur permettait de se rendre compte qu'ils étaient capables de faire des choses. Les multipotentiels, nous, on est beaucoup comme ça. À partir du moment où on se révèle, on se rend compte qu'on peut faire plein de choses et qu'on avait plein de mensonges dans la tête. Et il y a un syndrome dont on parle beaucoup, qui n'est pas uniquement propre au multipotentiel, mais à beaucoup d'autres personnes, qui est celui du syndrome de l'imposteur. Où, étant donné qu'on fait plein de métiers, il y a un moment donné, on se dit, mais on va se rendre compte que je ne suis pas légitime ici, on va se rendre compte que ce que je fais, c'est pas moi. Enfin, et un peu dans toutes ces casquettes qu'on porte. C'est quelque chose que toi, tu as rencontré dans ton parcours ?
Oui, ouais, complètement. Ça me l'a fait, je l'ai eu énormément, alors au début un peu inconsciemment, puis après consciemment. Je l'ai eu énormément quand j'ai lancé mon entreprise, bien sûr, parce que j'avais l'impression, en fait, comme j'importais un concept qui existait déjà, j'avais l'impression d'une part d'être un peu une voleuse, de me dire, bon, en fait, c'est pas vraiment mon idée, finalement, quelque part. Est-ce que je suis pas un peu une voleuse de dire, je prends une idée, même si c'est d'un pays qui a des milliers de kilomètres, et je l'importe ici. Donc, j'avais ce côté-là de me dire, tout le monde me disait, mais c'est bien, c'est une super idée. Et moi, j'arrivais pas à être contente de ces commentaires, parce que je me disais, bon, oui, c'est une super idée, d'accord, mais c'est pas mon idée. Et puis après, tout le côté aussi, avant de pouvoir dire, qu'est-ce que tu fais dans la vie, je suis chef d'entreprise. C'est pareil, on se dit, bon, surtout au début, c'est pas forcément, enfin, on fait pas forcément beaucoup d'argent, voire pas d'argent, on peut pas forcément se verser de salaire, donc on a aussi une tendance à ramener les choses au niveau financier, c'est-à-dire à se dire, bah tiens, j'ai créé une entreprise qui arrive à tourner, qui arrive à voilà faire des choses, etc., mais je me verse pas de salaire, donc quelque part, je suis pas vraiment chef d'entreprise, plus bah, effectivement tout ce côté, moi j'avais vraiment aucune expérience dans le domaine privé. Donc oui, je l'ai eu énormément. Oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Après, il faut juste se concentrer, je pense, sur tous nos petits succès, sur tout ce qu'on arrive à faire, et surtout plutôt que de voir tout le temps vers l'avant, même si c'est essentiel, de savoir aussi se retourner et de voir tout ce qu'on a accompli. Je pense qu'on arrive à surmonter ce syndrome de l'imposteur quand on se retourne au bout de quelques mois ou de quelques années, qu'on se dit, ah oui, quand on voit par exemple ce à quoi la com de son entreprise ou le site internet ou même le logo ressemblait au tout début quand on l'a lancé, et maintenant la tête que ça a, on se dit, ah oui, quand même, il y a eu du chemin qui a été fait, donc finalement, tout ça, quelque part, c'est moi qui l'ai fait. Donc, j'ai pas de recette miracle, mais je pense que ça se fait vraiment petit à petit, aussi quand on se sent beaucoup plus à l'aise dans ce qu'on fait.
C'est vrai, c'est important ce que tu dis. C'est vrai que très souvent, on a tendance à avancer et à regarder ce qu'on fait sur le moment et avoir une idée de ce qu'on veut et de la perfection. Et on a du mal à se retourner et regarder ce qu'on a parcouru. Et à tout ce qu'on a fait, on faut avancer petit pas par petit pas, et beaucoup de fois c'est quelque chose qu'on oublie, de pouvoir regarder d'où on vient et ce qu'on a fait aujourd'hui. Ça met en perspective et ça permet aussi de prendre conscience du travail.
Ouais, tout à fait. Je pense que c'est vraiment primordial, surtout pour tout ce qui est entrepreneuriat en fait. Sinon on a tendance à se mettre trop de pression, à se focaliser sur des objectifs qui seront peut-être atteints, mais pas dans un an, peut-être que ça sera dans 5 ans, et on peut très facilement se démotiver, alors que si on prend plus le temps de regarder en arrière, ben on se dit, ah bon, ben en fait, finalement, quelque part, j'y arrive, donc bon, ben allez, on continue encore un peu, et puis on verra ce que ça donne, quoi.
D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a fait sourire en lisant ta description, une description que tu as mise sur Internet, tu avais dit, je peux enfin m'appeler écrivaine. Justement, j'ai l'impression que ça croise un peu le syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu as eu cette impression de ne pas être légitime dans l'écriture et jusqu'à ce que tu sortes ton roman ?
Oui. Et même quand il est sorti, c'est pareil, ça a mis un petit peu de temps aussi avant que je me dise j'ai fait énormément de travail pour écrire ce roman, j'ai encore fait énormément de travail pour pouvoir le publier derrière, donc peut-être que oui, moi aussi j'ai le droit de m'appeler écrivaine, même si j'ai pas encore 15 romans à mon actif, et que en fait on a toujours ce problème, je pense, de reconnaissance extérieure, c'est-à-dire que si on n'est pas les gens vont pas oser. Il y a énormément de gens qui écrivent. Je m'en suis rendu compte en publiant moi-même et puis en faisant un petit peu tout ce travail de promotion. Il y a vraiment beaucoup de gens qui écrivent, qui ne sont pas connus, qui pourtant vont écrire des super choses, mais la plupart vont avoir du mal à se dire je suis écrivain, parce que ils sont pas connus en fait, ou ils vendent pas des milliers de livres comme Michel Bussy ou autre. Et quelque part, c'est dommage parce que ça veut dire qu'on attend toujours d'avoir une validation, c'est pas le mot que je cherchais, mais c'est pas grave, une validation en fait de l'extérieur pour dire les gens me disent que donc moi je peux dire que, mais non, je pense que chaque personne peut dire si je passe du temps, si dans mes journées pour écrire et que voilà j'ai fait tout ce travail là et que ça me demande de l'investissement et autres, je suis écrivain au même titre que quelqu'un qui va vendre plus de livres et qui est beaucoup plus connu.
D'ailleurs, je pense qu'on peut parler du travail que tu as fait, parce que tu as quand même écrit un livre sur... tu vas peut-être pouvoir nous en parler, tu en parleras mieux que moi. Est-ce que tu peux nous parler de ton livre et surtout aussi des recherches que tu as dû faire pour pouvoir écrire sur ce sujet ?
Oui, tout à fait. Donc le livre s'appelle Le Cordon d'Argent. Il a été publié aux éditions Abatos, une petite maison d'édition. Et en fait, c'est un roman qui raconte l'histoire d'une jeune fille au pair française qui arrive en Angleterre et qui va travailler pour une famille donc monoparentale où il n'y a que la mère, qui a deux enfants dont l'aîné est un garçon qui est trisomique et autiste. Donc c'est un handicap qui est en fait extrêmement rare, qui est aussi extrêmement lourd, puis qui combine deux pathologies qui à l'origine sont complètement opposées. Et en fait, cette jeune fille au pair va découvrir vraiment ce handicap, se prendre d'affection pour le garçon, et suite à ça, plusieurs choses vont pouvoir découler de cette rencontre. C'est une histoire qui n'est pas du tout triste, qui va pas plomber le moral quand on la lit. Ça traite du handicap, oui, c'est pas larmoyant. Voilà, c'était le mot que je cherchais. C'est pas une histoire larmoyante, c'est vraiment une histoire qui est orientée plus, alors qui est d'une part faite pour faire connaître ce handicap, qui est très peu connu du public, mais qui est aussi faite pour donner espoir quelque part et puis montrer que plein de choses sont possibles.
Au niveau de la recherche, du coup, tu as dû c'était des connaissances que tu avais déjà ou il y a eu vraiment, oui, bien sûr, il y a eu vraiment de la recherche, mais d'où est née l'idée principalement?
Alors l'idée, donc ça reste un roman, c'est pas du tout autobiographique, par contre c'est basé sur des faits réels, c'est-à-dire que là où ça a été entre guillemets plus simple de pouvoir notamment retranscrire le handicap et les comportements du garçon avec autant de véracité, c'est que je l'ai vécu moi-même. C'est-à-dire que j'ai moi-même été, il y a très longtemps, il y a une bonne dizaine d'années, peut-être 12 maintenant, j'étais jeune fille au pair dans une famille similaire. Ce qui m'a permis, moi, de découvrir ce handicap-là. Donc le roman reste après, ça reste un roman, c'est pas du tout autobiographique, c'est pas du tout mon histoire, c'est pas du tout ce qui s'est passé dans cette famille. Par contre, tout ce qui nécessitait beaucoup plus justement de travail de recherche, j'avais déjà une bonne base en fait avec l'expérience que j'avais moi-même vécue. Après, ça a nécessité effectivement un peu de recherche complémentaire, notamment sur tout ce qui était, même s'il n'y a pas énormément d'informations médicales ou scientifiques, parce que c'est pas le but non plus, moi c'est pas non plus mon métier, donc je voulais pas retranscrire des choses qui pouvaient être fausses, mais toute cette partie-là un petit peu complémentaire, ça a pris un petit peu de temps, mais heureusement avec internet on trouve quand même beaucoup de choses maintenant, donc voilà. Mais le plus gros en tout cas, ça a été j'ai simplement retranscrit mon expérience, surtout sur tout ce qui était lié en fait à la description du handicap du garçon.
C'est intéressant. Ce livre, on peut le trouver où du coup ?
Alors, il est en vente sur internet, sur différentes plateformes. Il est en vente directement sur le site de l'éditeur, donc Abatos. Il est en vente sur le site de la Fnac. Il est en vente sur Amazon, sur deux sites, chapitres. Voilà, un petit peu toutes les plateformes de vente de livres en ligne en fait.
Et tu t'y connaissais justement dans l'édition avant ? Enfin, j'imagine que tu as dû apprendre tout ça. Comment tu t'es pris ?
Je m'y connaissais pas du tout. J'ai appris sur le tas, on va dire, tout vulgairement, mais ça a été un peu ça. C'est-à-dire que après, j'ai fait les recherches au niveau de la publication. Ça a été vraiment de faire les recherches toutes les maisons d'édition. Donc, j'avais trouvé quelques listes qui étaient déjà constituées de maisons d'édition. Après, je me suis dit, je vais cibler les plus grosses. Sait-on jamais, comme miracle arrive et qu'une grosse maison décide de le publier. Donc, j'avais ciblé les plus grosses, j'avais envoyé mes manuscrits. Après, les informations sont sur les sites en fait de chaque maison d'édition, en fonction de du type de texte et autres qui publient. Et puis voilà. Puis après, je suis passée sur des maisons d'édition de taille plus moyenne et puis là ça a marché.
C'est un beau parcours de découverte aussi de tout ça et c'est un très très beau projet. Et tu écris aussi pour des magazines, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Alors j'ai fait quelques articles notamment pour le magazine Holistique. En fait, c'est un magazine gratuit en ligne. Qui traite de différents sujets autour du développement personnel, en fait, beaucoup. Donc, il y a quatre numéros par an pour chaque saison et un thème en fait par numéro, et on peut contribuer en fait en envoyant une proposition d'article, et si l'article plaît, il est retenu et publié dans le numéro. Donc j'ai pu publier déjà 3 articles avec eux. D'ailleurs, c'est un magazine qui est très sympathique, qui est gratuit, ce qui est chose rare, et accessible en ligne avec des articles divers et variés autour de tout ce qui est développement personnel, et qui sont souvent très intéressants. Et je pense que ça mérite aussi d'être connu, parce que les initiatives gratuites sont rares, et c'est vrai que quand il y a quelque chose de gratuit, je pense que ça vaut le coup d'aller cliquer sur les pages ou de partager autour de soi ou de s'y intéresser un petit peu.
Tu as écrit sur quel sujet spécifiquement ?
J'ai écrit un article sur le thème du silence, un autre qui était sur le thème de la renaissance. Donc où là justement en fait j'écris toujours des articles qui sont beaucoup liés à mon expérience en fait, ce qui permet de donner des faits concrets, et puis donner des exemples aussi qui sont concrets. Renaissance par exemple, c'était sur un peu cette période en fait de transformation et de transition, quand je suis passée de mon métier de l'humanitaire à la création d'entreprise, et il y avait encore un thème qui était dualité,
thème que je pense en tant que multipotentiel on connaît tous bien. Oui. La dualité du choix, de plein de choses
que d'ailleurs j'ai traité comme dualité avec un S, voilà. En disant que c'était pas un problème, que c'était une opportunité en grosso modo, et qu'on était capable de tout faire et qu'on pouvait tout faire en bonne multipotentielle, voilà.
Moi j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ta technique de travail, notamment la gestion du temps, des priorités. Mm-hmm. Est-ce que tu utilises des méthodes en particulier peut-être pour te faire ton planning de la journée?
Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que quand on commence à jongler avec plusieurs projets, ça devient... Enfin, honnêtement, je pense que pour tout multipotentiel, il faut vraiment être bien organisé. Alors après, ça peut paraître du coup presque un peu trop rigide pour certains multipotentiels qui vont être beaucoup plus dans la créativité et autres, mais ça, chacun trouve la méthode qui lui convient. Moi, pour moi, ça, c'est vraiment essentiel d'avoir une méthode qui me permet d'être organisée, et surtout de pouvoir avancer en fait sur chaque projet, parce que là pour le coup il y a différents types en fait de multipotentiels. Moi pour le coup je suis vraiment plus à mener plusieurs projets de front en même temps, donc ça nécessite quand même d'être encore une fois organisé. Et l'outil qui m'a un peu sauvé la vie, que j'ai découvert un petit peu après avoir créé mon entreprise, c'est le bullet journal. Maintenant, ça commence à être connu, donc je pense que la plupart des personnes en ont entendu parler. C'est un système de carnet qui permet en fait de rassembler toutes les différentes listes. En fait, au lieu d'avoir 50 post-it ou une liste sur le téléphone et puis la liste sur le frigo et puis un post-it sur l'écran et puis un autre post-it là et puis un carnet pour ci et un truc pour ça, ça permet en fait de vraiment tout rassembler dans un seul carnet avec une méthode de pagination et puis de symboles sur les choses qu'on a à faire, les événements, les rendez-vous. L'avantage de cet outil, c'est qu'il est vraiment très simple. Ça a l'air compliqué. La première fois que j'avais regardé un peu comment il fallait faire, on se dit, oh là là, ça n'a pas l'air évident. En fait, c'est finalement, si, c'est quand on se penche un peu dessus, il n'y a vraiment rien de compliqué. Et c'est surtout qu'il permet d'être... on peut vraiment le personnaliser au maximum. Alors après, en cherchant, j'avais fait une vidéo sur le blog Arpero justement qui présentait la méthode. Sinon, sur Google, il y a plein d'informations sur comment faire un bullet journal. La seule chose sur laquelle je mettrais en garde, c'est qu'on va avoir tendance à trouver sur des réseaux comme Pinterest et autres beaucoup de gens qui montrent des pages de bullet journal qui sont toutes dessinées, toutes colorées, toutes belles, toutes jolies. Je pense que quelqu'un qui a le temps de faire ça et qui fait ça, c'est quelqu'un qui utilise un bullet journal plus pour sa vie quotidienne de hobby familial et autres que vraiment pour le travail, parce que je pense qu'il faut aussi savoir le garder simple au niveau des entre entre guillemets fioritures pour vraiment se concentrer sur le contenu. Donc là, je pourrais pas vous donner toute la méthode comme ça parce que ça va être compliqué, mais ça permet en fait de faire vraiment une. Il y a quelques pages qui permettent de planifier l'année, donc de noter notamment s'il y a des choses qui doivent arriver même dans 6 mois. Après, c'est des pages par mois, donc ça permet de noter par mois et puis de pouvoir faire des répartitions, des priorités en disant avec des to-do list, en fait, en disant bon, bah, ce mois-ci sur tel projet, je dois faire ça, ça, ça. De éventuellement, moi je répartis aussi par semaine en disant bon, bah, cette semaine je vais travailler sur ça, cette semaine sur ça, et ensuite par jour, donc de dire bah, idéalement la veille pour le lendemain, de dire bon, bah, demain faut que je fasse ça, 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 ma priorité c'est ça, etc. Donc ça permet en fait d'avoir tout au même endroit, et là l'autre gros avantage c'est de se vider l'esprit, c'est-à-dire que quand on commence à avoir plusieurs projets ou même à lancer une entreprise, on va cogiter en permanence, c'est-à-dire qu'on va se dire oh là là, faudrait que je fasse ça, ah tiens, puis cette idée-là ce serait bien, ah et il y a ça, et il y a ça. Et le fait d'avoir le bullet journal, on sait que dès qu'on a une idée ou qu'on pense à quelque chose, on le note dedans, et ça permet de se coucher le soir avec l'esprit tranquille, sans réfléchir à tout ce qu'on a à faire, parce qu'on sait pertinemment que de toute façon on n'oubliera rien puisque c'est déjà dans le journal. Donc ça, ça a vraiment été un énorme atout pour moi.
C'est intéressant parce que c'est vrai que enfin, Julien me montrait son carnet sur lequel il est en train de prendre l'interview, qui est les premières pages, il y a marqué bullet journal. Donc c'est des choses que aussi bien lui que moi on a tenté de faire, mais ouais. Je pense qu'on n'a pas dû trouver les bonnes méthodes et les bons trucs pour le faire. Du coup, fatalité, moi j'ai 3 carnets dans le sac à dos, chacun qui ont un truc dédié, enfin tout se transforme. Donc c'est intéressant parce que du coup ta méthode me parle plus et m'explique un petit peu plus qu'elle voulait journal. C'est vrai que maintenant on en trouve partout. Quand on va dans certaines grandes enseignes et tout, on en voit plein. À chaque fois que je les ouvre, enfin, moi, ça me dérange énormément le fait qu'ils soient pré-préparés. Parce que comme tu dis, il y a plein de multipotentiels. La chance justement de ce genre de choses et l'opportunité de ces bullet journal, c'est de pouvoir créer le sien. Celui qui est adapté à notre façon aussi de créer, de réfléchir, d'avancer, de s'organiser. Parce qu'on est aussi des fois un petit peu les rois de la procrastination, de l'oubli, parce qu'on a tellement de projets que c'est bien d'avoir justement un outil de ce côté-là avec lequel travailler. Donc merci pour les conseils. Je pense que ça va nous aider tous les deux.
Moi, je peux en parler rapidement. Ça avait être un échec au final. Mais j'avais trouvé une vidéo sur YouTube qui expliquait comment construire son bullet journal et après l'adapter à ta sauce. Et puis au final, c'est vrai qu'en ayant et les applications, et les notes, et les to-do lists, etc., ça faisait un petit peu trop d'outils. Je me suis concentré sur des outils, sur des applications plutôt.
Oui, c'est vrai que aussi bien toi que moi, on est beaucoup plus applications iPhone et ce genre de choses et tout. Moi, c'est vrai que le bullet journal, maintenant, je l'ai remplacé par un petit enregistreur. J'aime bien parler et tout, ça me permet justement de récupérer, quand j'ai une idée, de suite l'enregistrer et après la reprendre. Mais ça reste toujours quelque chose que j'ai envie de faire. J'adore écrire, j'adore mettre des petits carnets. Et je pense que c'est le désespoir de beaucoup de mes amis qui viennent chez moi. Ils doivent, très sincèrement, dans mon salon, en vue, il y en a en prince 6 ou 7 des carnets, tous entamés.
D'accord.
Donc c'est cool parce que ça me donne des petites idées pour essayer de recommencer. Donc peut-être acheter un carnet, avoir une bonne excuse. Et voir un peu si j'arrive à tenir ça un petit peu plus longtemps.
Ouais, bah après, je pense que c'est comme tout. Moi, c'est une méthode qui vraiment m'a presque sauvé la vie, qui me convient parfaitement. Après, il se peut que ça ne convienne pas à d'autres personnes. Mais c'est vrai que ce qui est marrant en plus en tant que multipotentiel, c'est qu'au début, j'avais ce carnet-là juste pour ma société, en fait. Puis deux, trois autres trucs personnels à faire ou à suivre. Et puis maintenant, j'ai ma page sur le mois. Et puis après, je tourne, j'ai ma page pour ma société Arpero. Puis la page d'après, c'est ma page pour l'ONG pour laquelle je travaille, Humanium. Puis la page d'après, c'est sur l'écriture avec tout ce que j'aime. Donc en fait, ça permet au fil du temps aussi de voir tous les projets qui s'additionnent. Et puis, je trouve que ça donne un visuel finalement assez sympa de se dire, bon, allez, quand on a un petit coup de mou, de se dire, bon, allez, j'arrive à faire tout ça, c'est bien, il faut que je sois contente de moi plutôt que de plutôt que me flageller parce qu'aujourd'hui, j'ai pas trop envie de travailler.
Est-ce que le remplissage de ce carnet, tu as une heure spécifique? Est-ce que tu as un rituel dans la journée ou une routine?
Non, pas spécialement. La seule un peu routine que j'ai, parce que c'est un peu obligatoire, c'est à la fin du mois, je prépare le mois qui arrive. Pour reporter toutes les tâches, s'il y a des choses qui n'ont pas été faites, tout ce que je dois suivre, que je dois encore garder en tête parce que c'est pas réglé et autres. Après, je fais pas forcément la veille pour le lendemain. C'est vrai que c'est mieux de le faire, mais bon, dans les faits, je le fais pas forcément. Des fois, je le fais le matin même. Quand je me mets à mon bureau, ça me permet de me poser 5 minutes et de me dire, bon, allez, aujourd'hui, je regarde, je fais, ah oui, il y a ça, ça, ça. Donc, voilà, noter ce que je dois faire dans la journée. Et puis, sur certains jours, si j'ai des jours qui sont un peu plus light, où j'ai pas forcément envie voilà, de me mettre la pression, ben, j'écris même pas de trucs en particulier. Je fais un petit peu comme ça ce que j'ai envie en fonction de, voilà, des listes de chaque projet. Et puis, voilà.
C'est vraiment un outil de travail, c'est pas parce que souvent les bullet journal ils sont souvent utilisés pour tout ce qui est le développement personnel où là effectivement on développe cette routine de je me lève le matin, j'écris ou je vais le soir, j'écris. Là c'est plus au niveau travail donc c'est pas du tout orienté dans un j'ai 10 minutes le matin où je me dédique à ça ou autre chose.
Ouais, pas du tout. Non, c'est vraiment un outil de travail. C'est d'ailleurs c'est le but. En tout cas, je me souviens plus du nom du créateur qui est américain, mais c'est vraiment son but. C'est-à-dire que c'était pas des carnets. C'est pour ça que je disais, faites attention sur les images qu'on voit avec des carnets, avec ma liste de livres à lire et puis tout plein de jolis livres dessinés dans une bibliothèque, etc. Je veux dire, les gens qui aiment bien faire ça pour avoir le côté un peu bah, je dessine et puis en même temps je suis un peu ma vie puis le côté plus développement personnel c'est super hein, chacun fait ce qu'il veut mais c'est vrai que pour le côté plus travail il faut que ça reste un outil qui soit vraiment travail c'est-à-dire que après moi je mixe aussi avec un tout petit peu là depuis cette année avec un petit peu de développement personnel parce que je réfléchis sur des objectifs, sur des choses que je veux mettre en place et autres. Donc j'ai quand même un petit système de tracker et petites choses, mais ça reste vraiment minoritaire par rapport à tout le reste où c'est vraiment juste mes to-do, ce que je dois faire aujourd'hui, ce que je dois suivre, etc., etc.
Oui, ça correspond à chacun, de toute façon, ce genre de choses. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut le construire.
Tout à fait.
Tu comprends aussi que tu méditais, tu médites tous les jours ou tu...
Oui, tout à fait.
Tu as une heure en particulier. quelle est ta journée classique ?
Alors en ce moment, la méditation, j'en fais effectivement tous les jours, depuis plusieurs mois, là, sans exception, parce que c'est aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidée, notamment quand j'ai lancé mon entreprise, où c'est assez dur psychologiquement, donc de me remettre à ça, ça a été vraiment très bénéfique. Je le faisais plus le soir jusqu'à récemment, là je pense que ça fait à peu près un mois et demi, que je le fais plutôt le matin. Donc c'est vrai qu'en ce moment, ma routine, c'est quand je me réveille, je médite en fait tout de suite, à peu près un quart d'heure. Là en ce moment, je fais aussi un petit exercice de tout ce qui est un petit peu plus visualisation et autres, qui me prend à peu près 5 minutes. Et après, ça dépend, c'est-à-dire que j'ai pas forcément toujours les mêmes journées. Aujourd'hui, par exemple, j'étais pas en super forme, alors j'ai pris un petit déj dans mon lit et je suis restée dans mon lit pour travailler. Ça arrive très rarement. ça, honnêtement, ça m'arrive peut-être 3 fois par an, mais aujourd'hui, c'était le cas. Donc voilà. Sinon, ça dépend. Je fais aussi beaucoup de sport, donc quand je fais, je vais essayer d'en faire plutôt le matin. Ensuite, j'aime beaucoup prendre un petit déj tranquille, c'est-à-dire je prends juste un magazine. Et puis ça, c'est un peu l'avantage aussi d'être libre de travailler comme on veut. C'est de se dire, ben voilà, si on veut commencer sa journée à 10h, et ben on commence à 10h parce qu'il n'y a personne qui nous dira rien de toute façon. Donc ça, c'est vraiment des moments que j'apprécie de pouvoir prendre un petit déjeuner tranquillement et puis feuilleter un magazine en même temps. Et puis après, voilà, ça dépend. Après, souvent, je me mets au travail et puis c'est parti.
Tout à l'heure, tu parlais justement de tout ce qui était au niveau des dualités, au niveau des choix. Tu disais que tu avais vu un coach. Que c'était un petit peu difficile, que ça t'avait aidé justement dans ta création d'entreprise, parce que tu devais du coup faire un choix, te dédier à l'entreprise. Qu'est-ce que ça t'a apporté exactement au niveau de ce qui est équilibre, si on peut parler ?
Ça m'a énormément apporté. C'est-à-dire que, en fait, cette coach que j'ai eue, m'a vraiment aidé à un moment donné en fait où j'étais très démotivée par rapport au lancement de cette société. En même temps, il y a eu aussi beaucoup de choses, donc voilà, c'était vraiment moralement, psychologiquement, c'était assez difficile. Donc j'étais un peu dans une spirale qui me tirait vers le bas, et donc j'arrivais pas à identifier si... en fait, il y a des moments où je me disais non, il faut que je continue absolument à faire ça, à continuer à travailler sur cette entreprise. Et puis, par moments, j'avais toujours cette pensée qui me disait « Ah, mais quand même, ce que tu faisais avant, c'était bien. Pourquoi tu t'es embêtée à lancer cette entreprise alors que finalement, tu n'étais pas si malheureuse avant. Enfin, ce qui est là, tu l'aimais quand même, etc. » Donc, j'avais cette pensée qui me revenait. Et finalement, je ne savais pas si je devais... Si quelque part j'avais cette pensée-là parce que c'était pour moi difficile de ce nouveau travail en tant qu'entrepreneur, si c'était un peu la solution de facilité ou si c'était parce que j'en avais vraiment envie. En fait, j'arrivais pas à identifier, voilà, est-ce que c'était juste je me démotive, donc hop, j'essaie de me replier gentiment dans ma zone de confort, ou est-ce qu'il y a vraiment cette envie de... Et justement, en travaillant avec cette coach, c'est ça qui m'a permis de voir parce qu'à un moment donné, pour moi, faire les deux, c'était juste impossible. Enfin, je me disais, mais on ne fait pas deux métiers. Clairement, hein, c'est une fois que j'ai compris en fait, et accepté que bah, si, pourquoi ne pas faire deux métiers ? C'est à partir de ce moment-là que tout s'est débloqué. C'est aussi à ce moment-là, bien sûr, que j'ai réalisé ce côté multipotentialité. Et c'est elle qui m'a permis en fait, d'entrevoir ça, quelque part. C'est ce coaching-là qui m'a permis de me dire, bah, non, en fait, oui, je peux faire deux métiers. Donc c'est là où je me suis dit bon, après il faudra voir ce que je trouve parce que c'est pas forcément évident à conjuguer, mais je peux essayer. Et finalement, comme je disais tout à l'heure, bah, une fois que c'était clair dans la tête, en disant bon, en fait idéalement ce que je voudrais c'est continuer ma société mais reprendre aussi un métier dans l'humanitaire, c'est là où tout s'est un peu mis en place tout seul et d'une manière absolument parfaite, comme j'aurais même pas osé le rêver.
Oui, ben, la dualité qui disparaît, donc il y a aussi quelque chose de plus serein qui arrive, on retrouve un équilibre. C'est vrai que c'est vraiment une problématique qui me parle beaucoup, parce que moi, il y a quelques mois, j'étais vraiment dans cette dualité très 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 forte de choix, en fait. Et c'est vrai qu'il y a ce moment où on se rend compte, bon, je pense qu'il y a pas mal de livres qui permettent aussi de se rendre compte de ça, qu'on n'est pas obligé de choisir un métier. C'est quelque chose qui, en plus, actuellement, que ce soit les multipotentiels qu'on appelle aussi slasheurs, on en parle de plus en plus, et on est en train de se rendre compte qu'avoir plusieurs métiers, c'est même nécessaire actuellement, dans la société actuelle et dans l'entreprise en plus qui est en train d'arriver, dans le monde de l'entreprise qui est en train de changer. On cherche de plus en plus ces regards. Mais c'est important justement de un peu tordre le cou à ces idées reçues. Et je pense que c'est quelque chose auquel les multipotentiels se retrouvent confrontés assez régulièrement dans le syndrome de l'imposteur et plein de choses où ils sont un peu perdus. J'ose pas le faire, j'ose pas le vivre parce que ça se fait pas. Et il y en aura toujours des personnes qui viennent nous dire mais non, mais il faut que tu choisisses. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un témoignage qui est important de ce côté-là parce que ça va permettre aussi de comprendre que c'est on a le droit. En fait, on a le droit si on veut deux métiers. Ça demande de l'organisation, même trois, ça demande de l'organisation, parce que finalement, tu en as quand même trois. Tu travailles dans l'humanitaire, tu travailles dans tout ce qui est justement ton entreprise, et en plus, tu écris.
Oui.
Donc, ça fait quand même trois casquettes. Avec une bonne organisation, merci pour le bullet journal, hein, je suis vraiment m'y intéresser. Je pense que c'est des choses qui peuvent arriver. C'est pour ça que ce sont des choses qui sont importantes, qui soient témoignées, et ça, il faut en parler. Il faut vraiment que les gens arrêtent de croire qu'on est bloqué et qu'on libère le plein potentiel qu'on a, en fait.
Et puis si c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de faire, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ne pas y arriver. Parce que je me suis aussi posé la question à un moment donné de me dire, mais est-ce que je vais réussir à mener... Alors c'était les deux de front parce qu'à ce moment-là, je faisais juste des recherches pour chercher à publier mon roman. Il avait déjà été écrit, je crois, oui. Il avait déjà été écrit. Mais c'était, est-ce que je vais être capable de mener de front, de faire ces deux choses-là en même temps. Et je me rappelle de ma coach qui me disait, mais... ne te préoccupe pas de ça maintenant, elle dit les choses se mettront en place toutes seules. Et effectivement, je pense que c'est important de souligner qu'il ne faut pas avoir peur de faire plusieurs choses, parce qu'à partir du moment où on a vraiment envie de les faire, les choses vont vraiment se mettre en place toutes seules. C'est-à-dire que moi, on me dit, enfin, là, en disant j'ai trois métiers, les gens peuvent avoir l'impression que j'ai des semaines de dingue, que je me lève à 5 heures du matin, que je me couche à minuit le soir, que. Mais pas du tout. Ça, c'est pareil, je vais peut-être casser un mythe. Le mythe de comme quoi il faut... oui, il faut travailler, il faut avoir du courage, il faut pas lâcher, il faut... voilà, surtout, c'est surtout beaucoup de détermination. Mais pour moi, ça nécessite pas forcément de travailler comme un chien, 7 jours sur 7, jour et nuit, pour pour pouvoir mener tout ça de front, en fait. Au final, tous mes week-ends, je ne travaille pas. C'est quelque chose que, voilà, le samedi, le dimanche, moi, le vendredi soir, hop, j'éteins tout, c'est terminé. Et j'arrive encore à trouver du temps entre le lundi et le vendredi pour faire une formation de sport à côté, pour faire du sport, pour faire d'autres choses et puis prendre du temps pour moi. Donc ça, je pense que c'est aussi important à noter, de ne pas avoir peur. Ce n'est pas parce qu'on fait plusieurs choses qu'on se dit « Oh là là, on ne va pas y arriver ». Il ne faut pas se laisser submerger, il n'y a aucune raison que ça arrive. Et puis, si je suis capable de le faire, je pense que n'importe qui est capable de le faire aussi. Donc...
C'est vrai ce que tu dis, à partir du moment où tu assumes ta multipotentialité et que tu dis « Ok, c'est normal que j'ai plusieurs projets en même temps », après souvent quand on a tous ces projets en même temps, on a l'impression que ça avance pas comme on le voudrait, hein, aussi vite qu'on le voudrait, mais ce qui est important et ce qu'on se rend compte au bout d'un moment, c'est qu'à partir du moment où tous les jours, en tout cas toutes les semaines, tu fais quelque chose qui t'approche de ton objectif, que tu apportes ta pierre à l'édifice, les choses se mettent en place de manière naturelle au final, parce que tu fais les choses, tu deviens authentique, tu deviens toi-même, tu t'assumes. Tu assumes ce côté multifacette, ce côté multiprojet, et tu n'es plus là en train de te cacher aussi à ton entourage et du fait que tu as plusieurs projets, donc
les
choses avancent. D'ailleurs, comment toi, ton entourage, voit ce côté-là, ta famille, tes amis, quelles sont leurs réactions?
Alors moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai jamais été confrontée, en fait, surtout au niveau familial, à des gens qui ont essayé de me décourager ou autre. J'ai un conjoint, mon conjoint est aussi associé de la société, qui me soutient dans tout ce que je fais, donc de ce côté-là, j'ai aucun souci. Je pense que lui est en train de changer aussi, parce que je pense qu'il réalise que lui aussi est un multipotentiel, mais il n'y a pas encore c'est en train de venir, on va dire, mais voilà, c'est pas encore pleinement assumé, mais je suis persuadée que c'est quelqu'un qui a énormément de capacités pour faire plein de choses. Donc de ce côté-là, je suis soutenue. Et après, même au niveau de ma famille, ça s'est bien passé, c'est-à-dire que mes parents m'ont soutenue. Enfin, j'ai eu de la chance de pas avoir de personnes qui essayaient de me tirer vers le bas ou de me dire ah mais t'es sûre que pas de souci en particulier.
C'est bien ça. C'est vrai que souvent la famille peut être quelque chose qui peut un petit peu freiner dans la confiance en soi et dans ce genre de choses, dans les projets. Donc c'est vrai que c'est bien de se sentir soutenu. Puis encore mieux si on a un conjoint qui est multipotentiel. On l'attend pour les prochains, hein, donc tu fais en sorte qu'il s'assume, hein. On parlera avec lui dans pas longtemps.
J'y travaille. Je pense que ça va être plus difficile après de gérer tous les agendas.
Bullet journal.
Mais bon, c'est pas grave. Après, je vois aussi au niveau des contacts ou des amis ou autres, on a l'impression aussi parfois qu'il y a une certaine admiration, dire ah là mais toi t'as raison de faire ça, monsieur, etc. Les gens comme ça, j'ai toujours envie de leur dire mais enfin faites-le si vraiment c'est quelque chose qui vous plaît ou qui vous semble être une vie qui est bien ou qui est idéale, même s'il n'y a jamais de vie 100% idéale, mais faites-le, restez pas là à regarder les autres faire ce qu'ils veulent de leur vie et puis en se disant que vous pouvez pas, quoi.
Okay. C'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, moi, je me suis rendu compte sur pas mal de choses. Le retour de mes amis ne correspondait sur mon travail, ce genre de choses qui étaient toujours tu fais plein de choses, tu les fais bien et tout, n'était pas du tout ce que moi je voyais de moi. Donc à chaque fois c'était mais tu fais ça et t'es allé au fond, et moi j'avais l'impression d'avoir abandonné en plein milieu et ce genre de choses. Donc au niveau de toi, est-ce que c'est quelque chose qui t'est arrivé quand tes amis te parlaient de tes projets, où tu mettais des doutes sur certains de tes projets, parce que je suppose que quand on crée une société, on a quand même pas mal de doutes, en disant mais est-ce que je vais y arriver ou autre chose. Et des fois, on a des amis très bienveillants qui viennent nous dire mais non, mais enfin, tu réussis tout ce que tu entreprends et tout. Et nous, on se retrouve un petit peu surpris face à ça en disant mais quoi ? Parce qu'on se non, c'est tu parles pas de moi. Est-ce que c'est quelque chose que toi, t'as vécu au niveau de tes amitiés ou même de ton conjoint, de ta famille ?
Ouais, quasiment mot pour mot, tout à fait.
Ben voilà.
C'est bon, t'as tout dit.
Je pourrais presque ne rien rajouter, puisque c'était exactement ça. C'était dans le cadre de mon entreprise, quelques mois après que ça a été lancé, quand j'étais un peu sur... pas sur le fond, mais presque, où c'était très dur et où j'avais une amie qui m'a dit, mais voilà, exactement pareil, non, mais de toute façon, toi, t'es forte et puis tout ce que tu fais, tu le réussis, donc je me fais pas de soucis pour toi, etc., etc. Donc oui, effectivement, j'ai eu ce même, en disant, mais... oui, enfin bon, je sais pas, mais oui, non, enfin tout ce que tu as dit, je l'ai clairement ressenti aussi.
Ça s'est passé, enfin ça, ce qu'elle t'avait dit, c'est au début de la création de ton entreprise, si je ne me trompe pas, c'était en 2016, c'est ça?
Mm-hmm, oui.
Et actuellement, quand maintenant tes amis, maintenant que tu assumes beaucoup plus ce côté multipotentiel et que du coup cette entreprise commence à fructifier, que tu as ton bouquin, il y a tout ça. Maintenant, quand on te fait ce genre de retour, comment tu le prends? Parce qu'au début, on le prenait comme ça, mais maintenant
Finalement, un peu toujours pareil, parce que c'est un peu ce qu'on disait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, quand j'avais pas mentionné que je voyageais, etc., parce que pour moi, ça me paraissait normal, c'est-à-dire que j'ai toujours l'impression que les gens ont une vision, alors je sais, ou alors c'est... Enfin, peut-être que c'est moi qui ai un problème, je sais pas, mais j'ai toujours l'impression que les gens ont une vision décalée. C'est-à-dire quand on me dit « Ah, mais c'est super !» Enfin, pour moi, je suis contente de ce que j'ai accompli, je suis contente de la vie que j'ai maintenant. Après, si vraiment je discutais en détail avec quelqu'un, bah, pour moi, la société, c'est pas encore forcément ça. C'est pas pour moi une réussite en tant que telle, ça reste un projet sur lequel il faut continuer de travailler, et même si j'ai déjà fait beaucoup, il y a encore tellement de choses à faire pour... je suis encore dans une phase où je me dis, je continue tant que ça me plaît et tant que j'ai envie, mais je verrai si à un moment donné je ne me pose pas la question de me dire, j'arrête, ou si vraiment ça commence à marcher, et puis à ce moment-là, je peux continuer. Donc en fait, pour moi, j'ai toujours l'impression de ce décalage en fait entre la vision que ont les gens de moi, enfin de ce que je fais, et moi la façon dont je le vis. Mais je pense que c'est beaucoup le cas en général.
Et aujourd'hui, avec le recul, si tu pouvais revenir en 2016 et voir ton moi de 2016, tu lui donnerais quel conseil?
Je me dirais, c'est une bonne question. Je me dirais de me faire confiance, de faire confiance à la vie et de ne pas avoir peur. Mais vraiment, c'est vraiment sur la confiance. Je me dirais juste, aie confiance, ça va bien se passer.
Je pense qu'on peut passer aux petites questions one shot qu'on aime bien. Mmh. Donc, c'est quatre petites questions. Alors, un livre que tu offres régulièrement?
Le mien.
Hormis le tien, j'ai oublié de préciser. Mais un livre justement pour les gens que t'aimes bien offrir.
Alors, je suis plus du genre à piquer les livres des autres. j'ai prêté récemment, parce que je trouvais ça super, sur les relations de couple, L'alchimie de l'amour. Alors de Lisette, mais alors je n'ai plus son nom de famille, c'est une écrivaine des pays scandinaves, mais L'alchimie de l'amour, c'est un livre qui a été publié par la bibliothèque du magazine Happiness, qui est juste top sur, pour vraiment avoir une vision des relations de couple, et notamment homme-femme.
Il y a un bouquin qui te vient à l'esprit, dès que tu penses bouquin, est-ce qu'il y en a en particulier qui a changé ta vie, ta façon de voir les choses?
Oui, bien sûr. J'ai vraiment adoré le Plaidoyer pour le bonheur de Mathieu Ricard. Ça a été un livre que j'ai adoré, qui a été plein de sens, et qui, pour moi, a apporté des réponses à beaucoup de questions, comme on dit, questions un peu existentielles que je me posais. Ça a été... une révélation quasiment. Il est absolument super.
Y a-t-il un achat récent de moins de 100 euros qui a eu un impact positif sur ta vie?
Eh bien, encore des livres.
Je pense que pour les multipotentiels, une grande partie des multipotentiels, les livres, c'est la vie.
Ouais, tout à fait. Non, c'est vrai que j'ai beaucoup. Là, récemment, j'ai acheté Camp de survie bouddhiste de Tim Hawkeye, je ne suis pas sûre de la prononciation, Hawkeye, qui est très sympa aussi, mais j'ai lu beaucoup depuis 2016 en fait, où j'ai commencé un peu à me remettre en question et autres, j'ai lu énormément de livres comme ça, de développement personnel, ou un peu philosophique, ou un peu psychologique, et je honnêtement, c'est vraiment, pour moi, de moins de 100 euros, c'est vraiment des achats qui valent pas grand-chose. Enfin, c'est entre quoi, 6, 8, et puis il y a peut-être 20 euros un livre. Et ça peut vraiment nous aider à avancer et à évoluer en nous donnant une autre vision des choses.
Est-ce que tu pratiques la lecture rapide ?
Je lis beaucoup. Alors, je pense pas. Comme je lis beaucoup, je lis vite. Ça, c'est sûr. Après, la lecture rapide, je pense pas. C'est un peu en diagonale, c'est ça ? Enfin,
quand oui, on... c'est ça. C'est le principe de pouvoir lire un petit peu en diagonale et sortir un petit peu les idées principales des livres.
Non, alors ça m'est arrivé assez rarement, mais sur un ou deux livres où je trouve un petit peu moins intéressant, là, certaines pages ou certains paragraphes où je vais plus scanner comme ça. Ça, si ça m'ennuie un peu, je fais bon, allez, hop, je scanne un peu, puis je passe à autre chose. Mais après, lire, ça reste quand même un plaisir, donc c'est vrai que j'en profite.
Okay. Est-ce qu'il y a une application de téléphone que tu utilises et que tu pourrais conseiller pour les multipotentiels ?
Alors, pour les multipotentiels, non. Et j'ai presque plus envie de dire levez le nez de vos écrans de téléphone.
Ouais.
Je trouve ça assez horrible. D'ailleurs, mon pauvre conjoint, je lui dis ça assez souvent, mais je trouve ça assez horrible de voir les gens constamment avec leur nez sur le téléphone. J'ai envie de leur dire mais levez la tête, regardez autour de vous, parce que des fois, juste en prenant 2 minutes pour respirer et regarder un petit peu le ciel, c'est là où on va avoir les meilleures idées.
Tu as tout à fait raison d'ailleurs.
C'est clair. Et enfin, est-ce que tu as une citation fétiche ?
Oui. C'est extrait du livre, justement, Plaidoyer pour le bonheur de Mathieu Ricard. Et c'est « Être libre, c'est être maître de ses pensées ».
Eh bien, écoute, sur ces belles paroles, cette belle citation, je pense qu'on va arrêter l'interview. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation et de nous avoir dit toutes ces belles choses. Et puis,
merci beaucoup à vous.
Je te souhaite beaucoup de réussite pour tous tes projets.
Ouais.
C'est très gentil.
Très agréable moment en tout cas. Merci.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Nous espérons que vous avez apprécié cette interview autant que nous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à nous mettre 5 étoiles sur iTunes. Retrouvez tous les liens dont nous avons parlé dans les notes de l'épisode ou encore mieux, directement sur cameo.fr. Entre autres, nous vous invitons à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir régulièrement 5 astuces et découvertes rapides et ludiques pour nourrir le multipotentiel en vous. Cela peut être des livres, des exercices, des articles, des vidéos et autres petites choses sympas. Et surtout, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, questions, témoignages, par écrit ou via messages vocaux directement sur l'article de l'épisode ou envoyez-nous tout simplement un email sur podcast@cameo.fr. À très bientôt pour un autre épisode.